La chaîne, elle est tellement compliquée qu'on ne se rend pas compte quand on jette quelque chose de qu'est-ce que ça devient, quels sont les impacts qu'il y a derrière. Et en France, on a 850 décharges sauvages. Donc c'est juste énorme. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'en rendre compte.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Witwoud, un aventurier des temps modernes. À 27 ans, il met son énergie au service de l'écologie, de la lutte contre la pollution et le développement de l'économie circulaire en relevant des défis sportifs d'envergure. En 2017, avec son cousin Quentin, ils ont effectué un tour du monde à vélo pour aller à la rencontre des bonnes pratiques déjà existantes en matière de recyclage du plastique. Salut Mathieu.
Salut.
Avant de commencer, je voudrais que tu me parles de ta prochaine aventure. Tu vas traverser le lac Titicaca à la nage.
Ah ouais, ça c'est un truc de fou. Dans 2 mois, je pars, le 2 novembre pour être précis. Et le 10 novembre, je suis à l'eau avec deux autres nageurs. Théo Curin, qui est un nageur paralympique, un garçon hallucinant, qui n'a pas de bras, pas de jambes, qui a 20 ans et qui nage mieux que moi. Donc ça, c'est hallucinant. Et Malia Metella, qui est une ancienne championne olympique. Et tous les trois, on va essayer de traverser le lac Titicaca qui fait 120 km dans une eau à 10 degrés. À 3800 mètres d'altitude, en autonomie, donc c'est-à-dire en tirant un radeau qui fait 500 kilos.
Le radeau, c'est le premier bateau de Plastic Odyssey ?
Exactement, ouais.
C'est Ulysse ?
C'est Ulysse, qui avant était un tornado qui a fait les Jeux Olympiques.
Ouais.
Et donc, c'est pour moi incroyable, moi qui suis passionné d'économie circulaire, de se dire qu'on, là, on est sur sa troisième vie. Il aura vécu des vrais temps forts et nous, on n'est qu'une histoire dans la vie de ce bateau.
On a reçu Simon ouais. Bernard était le premier invité du podcast.
Ouais, j'ai écouté, c'était génial.
Comment est-ce que tu te prépares physiquement pour cette altitude, cette température d'eau, et puis surtout pour faire le poids avec deux nageurs olympiques ?
La première chose, c'est la préparation au froid. Dans une eau à 10 degrés, même avec une petite combi, en fait la combi elle fait 3 mm, donc ça ne fait pas une barrière énorme. Et quand on va être plusieurs heures par jour dans l'eau, dans cette eau-là, il faut vraiment qu'on se prépare. Donc là, c'est une acclimatation, on va faire des bains glacés.
Donc tu as une combinaison de 3 mm, mais est-ce que tu as un bonnet ?
Une cagoule et un
une
bonnet.
Une cagoule, ouais. Okay.
Donc sur la préparation au froid, tout l'hiver, j'étais qu'en t-shirt. Donc j'ai presque pas le droit au pull. Donc tu prends le RER le matin, en février, tu es en t-shirt. Parce que ton corps s'acclimate au froid. Donc tu as toute cette préparation-là. Tu as la préparation physique, où là, on est coaché par le préparateur de l'équipe de France d'eau libre.
Ouais.
Stéphane Leca. Et donc là, on a des entraînements presque toutes les semaines, mais presque tous les jours. Et puis après, tu as la préparation mentale. Et là, tu vas jalonner en fait toute ton année de défis.
Tu le fais avec qui, ça, la préparation mentale ?
À travers les défis que tu fais, tu pousses un peu le seuil de tolérance que tu as mentalement. Et donc, il n'y a pas un préparateur mental, mais c'est les expériences que tu vis qui vont mentalement te préparer.
Comment ça marche, là, quand tu tires le bateau ? C'est qu'il y en a un qui dort et puis deux qui nagent ?
Il y en a un qui tire le bateau, avec une espèce de longe qu'il a attachée autour de lui. Le bateau fait à peu près 500 kilos avec les deux coéquipiers. Donc, on n'avance pas très, très vite. Pour ça, on a le droit quand même d'avoir des palmes. Sur le bateau, en fait, on aimerait bien dormir et se reposer, mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut filtrer l'eau, il faut préparer à manger, il faut allumer le réchaud, il faut gouverner, il faut plier la tente, il faut plier les affaires. Le repos, on l'a que pendant les temps, on va dire, de repas, qui sont le soir et le midi.
Si on revient en arrière, tu n'étais pas vraiment destiné pour être un aventurier. Tu as fait une école de commerce en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ? Pourquoi l'école de commerce ?
Je ne sais même pas encore si je me vois vraiment comme un aventurier, tu vois. Parce qu'il y a plein de casquettes différentes. Mais mes études, en fait, j'ai fait mon collège en Suède,
ouais,
et mon lycée en France.
D'accord.
Et après mon lycée, je me souviens, donc il y avait un...
Tu avais des parents expats ?
J'ai des parents expats, ouais, on a vécu pas mal à l'étranger. Okay. Et je me souviens, on est dans cette énorme salle, une espèce d'énorme gymnase où il y a je ne sais plus combien de milliers d'étudiants qui font tous le même test là, pour savoir si on va pouvoir passer en école de commerce ou quoi. Et là, moi, j'ai eu un peu un vertige, quoi. Un peu comme quand t'es au-dessus d'un vide et tu te dis, est-ce que j'y vais, quoi. Et ce vertige, c'était de me dire, en fait, j'ai l'impression d'être vraiment comme tout le monde, quoi. Là, j'ai l'impression d'être... de pas me retrouver moi dans ce parcours. On me balance un peu là-dedans parce que j'ai fait, terminal ES. Et du coup, la voie normale serait de faire une école de commerce. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent qui me correspond un peu mieux? Et ma mère m'a dit, va en Angleterre, voir ce que tu... Je pense que ça correspondrait mieux à tes aspirations. Donc, je vais au campus de Loughborough, au fin fond de l'Angleterre, genre à côté de Nottingham, mais vraiment perdu, il se passe rien là-bas. Et un petit village avec des briques miniers, tu vois, aucun intérêt. On est au mois d'août, il y a une inondation dans la business school, tu vois. Et pourtant, je fais le tour et après 2 jours, je me dis, OK, c'est là que je vais aller.
Et alors, pourquoi?
Parce que j'ai vu les infrastructures sportives. Et je suis pas un pro, mais je me suis dit, quand même...
Les Anglais, ils sont quand même un cran au-dessus de nous.
Ah ouais, je me suis dit, s'il y a des infrastructures comme ça, c'est qu'en fait, ils perçoivent pas du tout toutes les activités extrascolaires comme quelque chose de futile ou comme quelque chose de superflu, mais comme quelque chose vraiment d'essentiel au cœur de ton cursus.
J'ai vu que tu avais fait ton premier stage chez Unilever. Sur ton LinkedIn, tu dis que ta mission, ça consistait à vendre du shampoing et remplir des tableaux Excel. C'était une grosse motivation, ça?
Ce qui me motivait, c'était plus le fait que c'était au Mexique et le fait de me dire, OK, je vais voir comment c'est de bosser dans un grand groupe. Clairement, j'ai compris, un peu au même titre que quand j'étais dans cette grande salle avec tous ces étudiants, que c'était pas ma voie. Par contre, ça m'a permis de comprendre comment marche un grand groupe, quelles sont ses orientations, comment est-ce que tu choisis les prix d'un produit, comment est-ce que tu définis une stratégie marketing. Tout ça, c'était instructif, mais clairement, c'est pas quelque chose qui m'a passionné.
À quel moment, du coup, ta conscience environnementale s'est-elle développée?
Donc, en fait, on est en 2014. Je suis en train de faire mes études et je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Passeur d'espoir » et je le lis dans le vieux canapé de ma petite coloc en Angleterre. Et dans ce bouquin, c'est l'histoire d'une famille avec 5 enfants qui font un tour du monde pour rencontrer des entrepreneurs sociaux. Et là, je me souviens très bien, quand je feuillote ces pages, je me rends compte qu'il y a des gens à travers le monde qui sont brillants et qui dédient vraiment leur énergie et toutes leurs ressources au service du bien social. Alors, je lis tous les remerciements, je lis tous les trucs annexes que je fais rarement dans un livre parce que c'est pas souvent là où il y a les trucs intéressants. Et là, je tombe sur une petite phrase qui dit « Ces entrepreneurs ont été choisis parmi le réseau Ashoka ». Alors là, moi, j'ai passé, je crois, une soirée entière sur le site d'Ashoka à éplucher les entrepreneurs sociaux et à comprendre qu'en fait, des entrepreneurs sociaux, il n'y en avait pas 10 comme ils ont rencontré à travers le monde, il y en avait des milliers. Et que ces milliers, ils se rassemblaient notamment dans cette plateforme qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le monde entier. Et du coup, là, j'ai mon cœur qui bat et j'ai du mal à dormir. Et je me dis, attends, ça, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. C'est pas vendre des shampoings et remplir des Excel, quoi. Et du coup, j'ai postulé pour faire mon stage de fin d'études. Et je me souviens très bien de l'entretien. C'était un entretien d'ailleurs assez perturbant, parce qu'au lieu de me dire, ce côté point positif, qu'est-ce que tu as fait comme étude, Thomas, à l'époque, il commence l'entretien, il me dit, écoute, ça m'intéresse pas trop tes études, ton truc. Dans ton enfance, c'est quoi les moments fondateurs qui t'ont transformé? Et revient assez loin et va assez loin. Et en fait, tout de suite, j'ai compris qu'on était un peu sur la même longueur d'onde avec Thomas. Et tout de suite, ça a matché. Et en fait, pendant 6 mois, ma mission, c'était de faire le tour de France des profs les plus inspirants. Inspirants dans leur pédagogie au service des compétences psychosociales, des soft skills. Donc, comment promouvoir l'empathie, la créativité.
Finalement, quand on découvre quelque chose, il faut insister et y aller pour faire ce qu'on a envie de faire, finalement.
Ah ouais, faut foncer, quoi. Et en plus, j'ai vachement appris pendant ce stage, parce que j'ai appris à structurer un réseau, et j'ai appris aussi, une certaine humilité face à des gens extraordinaires, quoi.
À quel moment tu décides de faire le tour du monde en vélo?
En 2014, on est encore en 2014. 2014 a peut-être été une année un peu fondatrice, mais je fais le marathon de Paris avec mon cousin. Et mon cousin, c'est un peu mon compagnon avec qui on a fait un peu nos faits d'armes sportives. Et ça a commencé très doucement par un 10 km, un 21 km, puis après le marathon. Et juste après le marathon, je lui donne une lettre. Et dans cette lettre, je lui dis, Quentin, est-ce que ça te dirait de partir en vélo de la maison, d'un sens de la maison, et de revenir quelques années plus tard de l'autre côté de la maison? On réfléchit et il me dit, oui, alors là, faire le tour du monde en vélo, ça me fait rêver, c'est un rêve d'enfance qu'on partageait. Par contre, il me dit, j'aimerais bien finir mes études.
Il était en France?
Lui, il était en France, il faisait un cursus d'ingénieur à HEI et il voulait finir aussi son premier boulot qu'il venait d'avoir un CDI. Donc en fait, on a eu 3 ans d'attente entre le moment où on a eu l'idée et on s'est dit on est hyper motivé et le moment où on est parti.
Ok, donc il a lâché son boulot pour...
Sa boîte, c'était notre premier sponsor.
Ok.
Donc ils lui ont dit, on te donne une année sabbatique et quand tu reviens, tu reviens chez nous, quoi.
Comment est-ce que vous avez organisé le voyage? Comment ça s'est passé, si tu nous décris un peu le...
En fait, déjà, ça s'est organisé vachement en amont, ça c'est important. Dans un projet comme ça, aussi engageant, pour moi, c'est hyper important de savoir pourquoi chacun veut le faire. Et chacun a des pourquoi différents. Et donc, typiquement, Quentin, lui, c'était pour découvrir le monde, aller vraiment rencontrer des nouvelles cultures. Et moi, j'avais un peu de ça, mais étant aussi fils d'expatrié, j'avais beaucoup voyagé par le passé. Et vu que je venais de lire un livre incroyable, je m'étais dit, quand même, j'ai aussi envie d'aller rencontrer des gens qui vont m'inspirer, qui vont me conforter dans ce choix. Et donc, on s'est écrit chacun des lettres de pourquoi on voulait faire ça. Et ça a mis en fait 3 ans avant que ces pourquoi se superposent et qu'on trouve le projet commun, qui était du coup d'aller faire un tour du monde des solutions face aux déchets plastiques. On a préparé en fait du coup pendant 3 ans et notamment pendant 1 an, dont 6 mois à temps plein, où moi mon rôle c'était d'identifier les solutions. Donc avant de partir, on a identifié 300 solutions à travers le monde.
Pour vous préparer, vous êtes parti en Corée du Sud ?
Ouais, exactement.
En fait, ça c'était quoi ? C'était un aller-retour ? C'était un galop d'essai ?
Quentin faisait à l'époque, c'était en 2015, son échange en Corée du Sud, un échange universitaire. Et on se dit, on va quand même se tester sur le bitume sud-coréen. Et on part en Corée du Sud. Et à l'époque, l'idée, parce qu'on a eu plusieurs idées avant d'arriver sur cette idée du plastique, c'était dans chaque pays, on va prendre un moyen de locomotion local. Donc si c'est un vélo, ça doit être un vélo sud-coréen. Donc on arrive en Corée du Sud. Et là, on doit chercher on cherche un vélo d'occasion. Mais là-bas, ils ont une culture quand même qui est de toujours, on a le meilleur matos. Donc trouver un vélo d'occasion, ça a été difficile jusqu'au moment où devant un magasin, on pointe un vélo rose et on explique au vendeur qu'on veut traverser le pays avec ça et il se marre. Il appelle tous ses potes. Il y a un spectacle un peu bizarre parce qu'ils sont 6-7 à se marrer, à nous regarder avec nos dégaines. Pour te dire, c'est un vélo rose avec un siège de bébé derrière, trop petit, un vélo de femme... Ça n'a aucun sens, on ne va pas faire 700 km sur un vélo comme ça, 600-700 km. Et pourtant, il nous donne le vélo, il est tellement excité avec ses copains qu'il nous donne des casques, il nous donne un cadenas, il nous dit « allez-y » et surtout, envoyez-moi une photo si jamais vous arrivez.
Tu lui avais expliqué le challenge ou pas au gars ?
Ouais, on avait sorti une carte, on lui a dit « on va aller de là à là, de Séoul à Busan » et il s'était marré, quoi.
Il avait raison de se marrer ou pas ?
Il avait raison de se marrer, notamment parce que souvent, ma force, c'est d'impulser les idées. La force de Quentin, c'est de les réaliser. Du coup, moi, j'avais l'idée de se dire « on va partir avec ce vélo rose ». Heureusement que Quentin était là, parce que c'est lui qui a fini par faire les 3/4 avec. Parce qu'au bout de 2 jours, en fait, le vélo était tellement petit que j'avais mal aux genoux et que je ne pouvais plus avancer. Et en même temps, on est parti pas du tout préparé. Moi, je pensais Corée du Sud, sud, il fait chaud. En fait, en avril, il fait froid. Donc, quand on avait une tente, une place, avec des sacs de couchage, 10 degrés, et que la nuit, il faisait moins 2, la première nuit, on s'est vite rendu compte qu'on avait super froid. La deuxième nuit, on a dormi dans des toilettes publiques. Bref, on a fait plein de conneries, plein d'erreurs. Et on s'est dit, OK, le vélo, c'est chouette. Ça nous permet de faire des belles rencontres. Mais il y a quelques petits trucs sur lesquels il faut qu'on soit bon quand même pour pas...
Pour pas que ce soit un plan galère.
Ouais, pour vraiment faire le tour du monde. Quoi. Sinon, on va faire le tour de France.
Après ce crash test, ouais. Comment est-ce que vous avez préparé, financé le tour du monde ?
Sur la préparation, on a, en fait, pour devenir, pas expert, mais pour devenir assez sachant sur le sujet, on a participé à toutes les conférences sur le plastique. On faisait en fait un peu la technique des 50 cafés. Tu prends 50 cafés avec des inconnus qui, eux, sont des experts sur l'économie circulaire et que tu contactes. Dès que tu vas voir une personne, tu dis « Ok, c'est qui les personnes importantes que je devrais aller voir d'après toi ?» Et par effet boule de neige, comme ça, on a créé un peu notre expertise et notamment en interviewant le CEO de la Fondation Emma Carture. Il nous a dit, en fait, là où on a le moins de connaissances, c'est dans les pays émergents. C'est facile d'aller voir ce qui se passe en Suède ou aux États-Unis. C'est très, très dur de savoir comment se structure un réseau informel en Inde ou au Chili. Donc, c'est là où on a aussi concentré notre voyage. Et après, après on a lancé en fait, plein de rencontres, plein d'entreprises, créer la plaquette, faire un crowdfunding de 10 000 euros. Donc là, on a dû faire beaucoup de communication aussi autour de ça.
Ouais.
Mais c'était génial parce qu'en fait...
Le budget, c'est combien ?
Le budget au total, c'était 50 000 euros.
Et du coup, les 40 000...
40 000 de partenaires, ouais. On a eu Bouygues, on a eu une boîte de marketing qui s'appelle Audirep, une boîte dans le bâtiment qui s'appelle Fidexi, et un autre, le Lobby des Plastiques.
Qui s'appelle comment ?
Plastique Europe. Donc, autant on allait voir dans toutes nos rencontres un Zero Waste France, qui lui, allait assez loin dans sa vision, et autant on allait voir aussi les lobbies du plastique. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'est que En fait, le plastique, il ne faut pas non plus tout jeter et qu'aujourd'hui, il a des utilisations qui sont intéressantes. En tout cas, demain, si tu enlèves directement le plastique, il y a des répercussions hyper importantes pour le secteur médical, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément en sortir.
Ça, c'est un peu le discours des lobbies du plastique. Ça veut dire que, un peu comme d'ailleurs pour le tabac, pour le diesel, pour l'amiante, on instille le doute en disant mais on ne peut pas sortir du jour au lendemain du plastique. C'est vrai, mais le plastique à usage unique, on peut s'en passer assez facilement, finalement, en changeant un peu des habitudes qui sont ancrées, mais ancrées depuis moins d'une génération.
Alors, tu as tout à fait raison. Mais pour moi, le débat, ce n'est pas le plastique, c'est l'usage. En fait, le plastique, c'est un matériau. Est-ce que c'est le plus adapté? Et c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Après, l'usage unique en général, oui, en fait, pour moi, c'est plus ça le problème. Sur certains produits, en fait, l'impact du plastique, s'il va être réutilisé je ne sais pas combien de fois, il peut être meilleur que si c'est du carton à usage unique, tu vois. Donc,
C'est le déchet au sens large, ça, on est bien d'accord.
Par contre, ceci dit, ce qui était hyper important pour nous, c'était d'avoir l'entière liberté dans notre discours. On n'était pas ambassadeur du plastique, mais ambassadeur du zéro plastique en décharge. On avait mis quelques règles, en tout cas au début, très claires, et on s'était posé bien la question. Et depuis, je n'ai pas retravaillé avec eux.
Donc, vous partez en vélo, vous faites quoi? Comment ça marche?
Bouygues nous avait organisé un énorme départ avec tous les partenaires de leur siège. On aurait dit un départ du Tour de France, tu sais, avec l'allée comme ça, les gens qui étaient venus, un énorme buffet. Donc, il y avait un côté un peu festif, sachant que ça faisait quelques jours qu'on dormait très mal, qu'on préparait le projet à fond, qu'on avait oublié du matos, oublié plein de trucs. Et donc, on part et très vite, on se retrouve. OK, où est-ce qu'on va? On prend la carte, on se perd une première fois, on se perd une deuxième fois.
Mais attends, donc là, tu es au siège dans le 8e, avenue Foch?
Non, c'était à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Saint-Quentin, OK.
Tu vois, leur gros bureau, là, Challenger. Donc, toute la famille était venue. D'ailleurs, la famille a pédalé les premiers kilomètres avec nous. C'était sympa, c'était assez symbolique. En fait, vu que c'est mon cousin, qu'on est très proches comme famille, la famille était là au début, la famille était là à la fin. En fait, il y a eu vraiment ce socle important. Et du coup, on part sur cette première journée et la première nuit, on s'installe. Et la première nuit, on l'avait un petit peu rêvé parce qu'on se dit, bon, quand t'aimes bien être en lisière de forêt pour avoir une vue dégagée, alors que moi, je me dis, non, plus on est dans la forêt, plus on est dans la nature. On s'installe, on sort le réchaud et le réchaud ne marche pas. Et tout le monde nous a dit, avant de partir, testez votre matériel. On s'est senti un peu con à devoir faire un feu à 22h pour manger des pâtes pas trop cuites. Et c'était la première nuit qui avait sa saveur particulière parce que c'est énormément d'émotions qu'on laissait en fait sur le départ et on partait sur une autre aventure.
Et puis comme ça, de fil en aiguille, donc tu pars de Paris?
On part de Paris et là, la destination, c'est le Maroc.
Maroc, OK.
Donc là, on descend la France en longeant la côte ouest. Et franchement, la France, on a réalisé ça en rentrant en fait. Mais la France, c'est le pays le plus extraordinaire pour sa diversité de paysages au kilomètre. En France, tous les jours, c'est un spectacle différent. Il nous a fallu faire le tour du monde pour réaliser cette chance qu'on avait. Et en fait, on a jalonné du coup notre parcours de rencontres. En fait, c'est des moments sur lesquels, dès que tu as du temps après, tu vas pouvoir réfléchir pendant des heures et digérer ce qu'on t'a dit. Et ça, je trouve que dans un quotidien, en tout cas aujourd'hui, où on subit un peu l'infobésité, tu vois, tout le temps dans un rythme, on a énormément d'informations. Là, on avait le temps de les digérer. Tu vois, c'est super fort et ces moments-là sont hyper importants. Au Mozambique, vu que je sais en plus que tu es allé au Mozambique, ça va te parler. La petite histoire, c'est qu'on est vers Vilanculos et on rencontre un Français à cheveux longs qui nous dit qu'il était informaticien et que toute sa vie, il avait vu un écran, tu sais, le fond d'écran de paradis et il a dit un jour, j'irai, il a tout quitté pour y aller. Et il me dit, ah, mais j'ai un super copain belge qui travaille dans le recyclage, il faut que vous l'appeliez, qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane, pour nous, déjà, ce nom, il est un peu drôle parce qu'on avait créé un personnage qui nous accompagnait tous les soirs, qui s'appelait le coach Stéphane. Et quand il fallait faire des étirements, on faisait les gogoles, on faisait des étirements, un peu du faux yoga ou des mouvements un peu exagérés, et c'était le moment coach Stéphane. Donc déjà, quand il nous dit, j'ai un pote belge qui s'appelle Stéphane, on se regarde avec un petit air complice et on l'appelle. Allô Stéphane? Oui, bonjour, je m'appelle Mathieu, blablabla.
Oui, bonjour. Enfin, c'est pour vous dire que Vilanculos, là d'où je viens, c'est quand même pas très loin, quoi. Enfin, il y a pour 300 km en ligne droite, en deux jours, vous êtes arrivé, hein. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Donc là, bon, on comprend un petit peu la tonalité du personnage.
Et on arrive, du coup, 3 jours plus tard. Première chose qu'on fait, il nous amène, je crois qu'il est 15h. Et là, il nous amène, donc on est à Beira, une ancienne ville portuaire, tu vois, assez importante. Il nous amène faire ce qu'un Belge fait, c'est-à-dire prendre une bière. Et là, on prend une bière, du coup, avec ce Stéphane, qui nous raconte un petit peu sa vie. Et donc, il va, en fait, dans les zones de conflit les plus importantes en Afrique pour gérer le parc automobile des grandes associations comme la Croix-Rouge, les Nations Unies. Puis, au bout d'un moment, il subit un peu une désillusion de ces grandes institutions. Et il dit, je vais créer ma propre structure. Et il s'avère qu'au Mozambique, pays que j'adore, il n'y a pas du tout de recyclage. Donc, voilà qu'il prend sa voiture et que pendant un an, il va faire le tour de toutes les municipalités. Alors qu'il n'a pas beaucoup de sous, il n'a pas... Et dans chaque municipalité, il demande, est-ce que je peux avoir un terrain et une aide pour pouvoir gérer le recyclage des déchets. Et les unes après les autres, ils disent non, jusqu'à ce qu'il arrive à Beira, où là, il lui donne une espèce de terrain vague. Je lui dis, bon, ok, débrouille-toi. Et là, il lance, du coup, la première structure de recyclage dans un pays où il n'y a rien. Donc, il faut se dire qui brûle les déchets devant chez eux, en fait, les gens. Et pendant 10 ans, il fait ça, jusqu'à structurer le premier réseau de recyclage au Mozambique et une sensibilisation de je ne sais plus exactement combien d'écoles, mais en tout cas, c'était assez énorme. Il y a un lien humain, il y a un soutien aussi qui leur est apporté. Donc ça, c'était aussi assez fort, tu vois, d'apporter ses convictions et ses valeurs dans ce nouveau business, quoi. Et du coup, moi, ça m'a touché, quoi. Tu vois, au fond de moi, je me suis dit, OK, lui, il est capable d'avoir un engagement aussi important. Bah, prends cette petite leçon pour toi et garde-la bien au fond de toi, quoi.
Le pays qui t'a le plus marqué ?
Humainement, en numéro uno et de loin, l'Iran.
Ouais.
L'Iran, parce que c'était hyper dur de faire une nuit dans la tente sans être invité chez l'habitant. En termes de paysage, à la fois c'était beau, à la fois c'était quand même assez monotone. On le traverse en hiver, il y a énormément de désert. Donc parfois, pendant 10 jours, on est sur la même ligne droite. On ne tourne ni à droite ni à gauche. Et on a le même paysage. Par contre, tous les soirs, dès qu'il y a une voiture qui nous croise, elle s'arrête. Elle dit « Ah, vous voulez prendre un petit thé? Vous voulez qu'on vous ramène du fromage? Vous voulez... » Et il y a vraiment une bienveillance et un niveau de confiance envers l'étranger que j'ai jamais connu ailleurs. Donc l'Iran pour ça, le pays le plus surprenant, le Rwanda.
Ouais.
Accessoirement aussi le pays le plus propre qu'on ait visité. Tu te dis, c'est bizarre, t'es quand même au cœur d'un continent où tu ne pensais pas qu'il y avait ce berceau-là, sur lequel tu es resté sur des a priori comme le génocide, le danger, etc. En fait, les routes sont propres, les parcs sont clean. Il y a une joie de vivre, tu vois, qui est extraordinaire aussi et qui est contagieuse. Et je vais dire quand même, c'est pas tant un pays, mais c'est plus un lieu. C'est le désert d'Atacama pour les paysages. Parce que là, donc on est dans un des déserts les plus arides au monde. On est dans des paysages qui sont quand même... dur, et peut-être que justement la difficulté à créer l'émotion, plus c'est dur, plus moi je me sens connecté à la nature, et que là, de faire des cols à 4000 ou pendant 7 heures on est en train de monter virage après virage, il y a cette difficulté, mais en face il y a vraiment un spectacle de la nature avec des terres un peu sanguines dans leurs couleurs, des vents qui véhiculent un bruit un peu de fin du monde ou de bout du monde, et du coup de pouvoir pédaler au milieu de ce spectacle, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction à une vitesse de 15-20 km/h.
Et il est où ce désert ?
Il se situe entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Et sur un plateau qui doit être entre 2000 et 4500 mètres d'altitude.
Dans le voyage, tu as passé par l'Inde et les bidonvilles. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir ?
Le premier souvenir pour moi, c'est le choc. Parce qu'on passe d'une Iran hyper accueillante, désertique et glaciale, à une Inde effervescente. Donc on arrive à Mumbai et là on arrive dans une ville où ça va à 1000 à l'heure. Des épices, des sons, vraiment tous les sens sont saturés. Et 2 jours après l'arrivée, on va dans un des plus gros bidonvilles du monde, à Mumbai, qui se situe au centre de la ville. Donc Mumbai c'est une ville énorme et qui fait la taille de 300 terrains de foot. Et on va voir en fait donc 300 terrains de foot sur 50 mètres de haut. Il faut imaginer un petit peu la taille de la décharge. Et on va voir un collectif de femmes qui se structure pour améliorer les conditions de collecte des déchets sur cette décharge. Collecte qui, d'après l'ONU, est interdite depuis quelques années. Mais bien évidemment, il y a des gens qui y vont. Et on y va avec Quentin et sa sœur qui nous a rejoint pour une petite étape en Inde. Le sol, il est jonché de déchets partout. T'as des enfants qui crient, t'as des espèces de gens fous qui hurlent. T'es vraiment dans une ambiance où toi, t'es là avec ta caméra, parce que nous, le but, c'était de témoigner de ce qu'on voyait. Tu te sens mal à l'aise, quoi. Et en fait, dans cette expérience-là, qui a été quand même très traumatisante, hein, pour Diane, notamment la sœur de Quentin, qui en fait était en larmes, et le soir après, on a mis vraiment du temps à reprendre cette émotion. Et en même temps, cette émotion, elle est nécessaire, et je pense qu'on devrait tous passer par là. Parce qu'on devrait savoir que deviennent vraiment nos déchets. Le lendemain, j'étais dans les bureaux de L'Oréal, par exemple, avec des gens convaincus du plan qu'ils avaient, mais qui n'avaient pas vécu encore cette expérience-là, de vraiment se rendre compte. Et je trouve que c'est un des enjeux de la chaîne, elle est tellement compliquée qu'on ne se rend pas compte, quand on jette quelque chose, de qu'est-ce que ça devient, quels sont les impacts qu'il y a derrière.
Bah que le recyclage, ce n'est pas automatique, c'est même très difficile, et que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit.
Exactement, mais ça, c'est des expériences transformatrices, en fait.
Ça, tu peux le faire en France. Il suffit d'aller visiter une décharge. Moi, j'en ai visité un paquet des décharges quand j'étais chez Veolia. Enfin, là, tu décris 300 terrains de foot, donc je n'ai jamais vu une décharge aussi grande. Mais en Australie, j'ai visité une décharge où c'était juste un énorme cratère, mais un cratère gigantesque qui était rempli par des camions poubelles qui faisaient à la queue leu leu. Et quand on était en haut du cratère, on avait l'impression que les camions poubelles, c'était des petits Lego. Enfin, donc, tellement le cratère était énorme. C'est flippant. Enfin...
Bah exactement. Et en France, on a 850 décharges sauvages. Donc, c'est juste énorme. Il y a aussi énormément en France de déchets, de décharges sauvages. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'en rendre compte.
Si tu devais résumer cette expérience en trois chiffres et puis donner quelques exemples de startups qui t'ont marqué.
Je dirais 18 000 km. C'est la distance qu'on a fait en vélo. Je dirais 17 pays, parce que ça montre aussi les univers qu'on a pu parcourir. Et 30 rencontres. Et c'est des rencontres d'entrepreneurs qui m'ont vraiment marqué. Et du coup, je fais la transition en disant qu'il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Il s'appelle David Christian. On est à Jakarta. C'est un homme qui n'a pas du tout réussi ses études. Et pourtant, il va créer à 22 ans une alternative au plastique dans un pays où 9 plastiques sur 10 finissent dans l'océan. Donc, il va travailler avec des agriculteurs pour choper des algues, la transformer en poudre qui va étaler comme une feuille de papier qui va pouvoir recouvrir ton savon dans ton hôtel, ton thé dans ta tasse, ton café soluble, ton hamburger, mais qui au moins se dissout dans l'eau. Et ça, pour moi, c'est une solution simple qui s'appelle EvoWare.
EvoWare ?
EvoWare, ouais. EvoWare.
Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas partout ?
Déjà, elle est en Indonésie, donc dans un milieu en fait... insulaire qui se prête très bien à l'Indonésie pour la culture de l'algue, qui est peut-être moins présent en Allemagne ou en Russie, tu vois. Et ensuite, elle se développe. Elle a un peu plus de mal à démarrer là-bas parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes budgets et les mêmes considérations que nous, on peut avoir, en tout cas. Mais elle démarre fort. Elle a reçu pas mal d'investissements et du coup, elle se développe. Mais c'est typiquement le genre de solution, tu vois. Quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, c'est dingue. Pourquoi c'est pas partout ? Tu t'es dit, comment tu accélères tout ça, quoi ? C'est trop bien, il faut que ça parte.
Comment on revient d'un voyage comme ça ? Comment tu repasses sur un quotidien, finalement ?
On revient bien avant d'arriver, en fait. Pour moi, ça, c'était une partie importante parce qu'il y a énormément d'aventuriers qui me font rêver dans leur aventure, mais pas dans leur retour.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que leur aventure, je la trouve dingue. Ils vont faire 5 ans de tour du monde en vélo et ils vont faire un sommet incroyable. Et en fait, quand ils reviennent chez eux, c'est des gens qui sont un peu perdus, qui ont du mal à retrouver leur repère, qui vont retrouver un boulot dans lequel ils ne sont pas spécialement épanouis. Je pense qu'il y a des exceptions. Et en tout cas, moi, je cherchais comment vraiment voir cette expérience comme une étape et pas une finalité. Moi, en Angleterre, j'ai fait l'équivalent d'une licence. Dans ma tête, cette expérience, déjà, c'était un master. Ce n'était pas un tour du monde. C'était un truc sur lequel j'allais apprendre énormément, j'allais voyager, j'allais développer des compétences, en fait. Et une fois que j'ai développé ces compétences, comme quand tu fais un master, bah, tu veux transformer ces compétences, les mettre en application. Et je m'étais dit, en fait, là, pendant un an, enfin même un an et demi, j'ai rencontré des projets et j'ai développé une expérience, une expertise sur un sujet. J'ai un devoir de partager, tu vois, toutes ces rencontres. J'ai récupéré plein de choses. Maintenant, j'ai une responsabilité de la partager. Et du coup, c'est ça qui m'a animé dans le retour. Et il y a une phrase assez marquante d'un entrepreneur incroyable au Brésil qui nous a dit « El verdadero viaje se empieza cuando se termina ». Donc le vrai voyage commence quand il se termine. Et en fait, c'est vrai que quand il se termine, ton voyage, c'est là où tu as le temps de réfléchir, d'emmagasiner tout ce que tu as pris pour changer en fait, ta vie, tu vois. Ça te redonne un peu des directions différentes. Et donc, dans cette vie un peu nouvelle, déjà, le retour était important. Donc, on est arrivé à Londres et pas à Paris. Et on a fait Londres-Paris en vélo avec notre famille pour revenir petit à petit dans un quotidien. Ensuite, j'avais déjà trouvé un boulot avant d'arriver, mais que je ne prenais pas tout de suite. J'avais 6 mois pour faire une expo, développer une conférence, etc., pour digérer l'aventure et la partager.
Tu as fait un TEDx ?
Notamment, oui. J'en ai fait 3 même. Mais en tout cas, c'était surtout l'occasion pour moi de structurer ce que j'avais appris et de partager leurs histoires, tu vois, les histoires des gens qui m'avaient marqué. Et donc, il y avait, voilà, j'avais déjà trouvé un métier.
Tu t'es fait embaucher chez qui ?
Alors, la rencontre s'est faite en Inde avec Raphaël Mavigné.
Qui est le fondateur,
Circulaire. Exactement. Et avec Raphaël, lui, il faisait un stage pour être prof de yoga là-bas. Et nous, on était de passage pendant notre voyage. Et on parle un peu, on refait le monde. Il s'avère qu'eux, ils ont fait un tour du monde sur l'économie circulaire. Il s'avère qu'ils ont une vision assez proche de la nôtre et un constat surtout qui est celui qu'on fera à la fin de notre voyage, qui est sur un sujet qui sont les déchets et les ressources qui s'épuisent. Toutes les solutions techniques, pour nous, elles existent partout dans le monde. Les solutions, elles sont là, en fait. Comment on les déploie suffisamment rapidement pour répondre aux enjeux qui sont grandissants. Donc, quand tu fais ce constat-là, tu dis, ah ouais, en fait, moi, mon rôle, vu que j'ai créé tout ce réseau et tout, c'est d'aller matcher des solutions avec des gens qui sont capables de les déployer. Et ça, c'était la vision, c'est la vision de Circulaire. Et moi, j'adhérais à 100% à cette vision. Et du coup, pareil, quand on a parlé, je me souviens, à 2h du matin, j'arrivais pas à dormir. J'écris une lettre de motivation, un peu décousue, avec des blagues, avec de l'humour, avec de la vision. Enfin, un truc complètement... c'était pas une lettre de motivation classique, quoi. Mais c'était mon... Tu vois, c'est un peu mon cœur qui parlait, quoi. Et donc, je lui ai envoyé. Il m'a dit, bah, écoute, au retour, prenons notre temps. Et vu que tu veux pas... Parce que je voulais pas rentrer directement chez Circulaire. Je voulais, en fait, voilà, prendre un peu de temps de mener mes propres projets aussi. Et naturellement, en fait, ça s'est fait super bien, l'intégration dans cette...
Qu'est-ce que tu fais chez Circulaire ?
Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'animer une communauté autour de l'économie circulaire. Donc, en fait, un des constats du voyage, c'était que dans les pays les plus avancés ou dans les collectivités les plus avancées sur l'économie circulaire, il y avait comme socle une culture de la collaboration hyper importante. Et moi, mon rôle, c'est d'avoir cette culture, de cultiver cette culture de la collaboration en France, entre différentes structures. Ou de participer à la créer, tu vois. Heureusement, je ne suis pas du tout le seul acteur. Et du coup, je vais rassembler plusieurs fois par an 42 grands groupes, une quarantaine de startups, une dizaine d'institutions pour que, je sais pas, la directrice RSE de L'Oréal puisse tchatcher avec le directeur innovation de Vinci, qui puisse parler avec un Thibaut de Castalli. On est un pont, si tu veux, entre des solutions innovantes et d'un autre côté, des entreprises qui peuvent déployer ces solutions. Et mon rôle, moi, c'est d'animer une communauté, tu vois, de créer un peu ce pont ou ces allers-retours entre ces différentes structures.
En plus de ce boulot, tu as continué les défis sportifs ?
Tout à fait. En fait, déjà, il y avait un gros challenge parce que tu passes d'une vie, d'un an, où ta seule constante, c'est l'adaptation. Donc, tous les jours, tu dors dans un endroit différent. Tous les jours, tu vas boire dans un endroit différent. T'es vraiment un quotidien qui est extrêmement différent de celui où tu vis dans un petit appart à Paris. Donc, j'avais besoin d'apporter dans ce quotidien un peu d'épices, tu vois, un petit peu de tabasco. Et du coup, mon tabasco, ça a été de se dire... c'est un rêve qui m'a rattrapé, qui a été celui de traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Parce que j'avais envoyé au début, on va faire le tour du monde sans utiliser de moteur. Donc, on s'est dit, on va traverser le détroit de Gibraltar à la nage. J'avais envoyé une candidature, parce qu'il y a une asso qui organise ces traversées. Et en fait, je n'avais pas eu de réponse. Et on a abandonné l'idée, parce qu'on s'est dit, on ne va pas partir 4 ans en voyage non plus. Quentin venait de se fiancer avant le départ, donc c'était un peu compliqué aussi. On rentre du tour du monde et je reçois un email dans ma boîte mail qui me dit « Super, c'est votre tour pour le Détroit de Gibraltar l'an prochain, choisissez vos dates. » J'avais complètement zappé cette idée, quoi. Et donc, je réfléchis un peu, je me dis « Super, c'est peut-être un bon challenge que je peux me lancer. » Et du coup, ça, en parallèle de mon métier, ça a été de me lever tôt le matin pour m'entraîner, d'avoir un plan d'entraînement toutes les semaines pour préparer ce défi et que j'ai fait, en fait, avec ma copine et mon petit frère.
T'as aussi lancé un projet Zéro Mégot ?
Ouais. En fait, après Gibraltar, on a tellement adoré cette expérience mais on l'avait fait plutôt pour nous. Alors que là, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut créer comme expérience qui, à l'instar du Tour du Monde, va pouvoir justement mêler un message et une aventure qui nous fait vibrer, quoi, qui nous fait rêver. Donc c'est comme ça qu'on a imaginé et pensé Zéro Mégo, qui à l'époque, quand je faisais un peu de recherche sur les déchets, je me suis rendu compte avec grande surprise que le premier déchet dans les océans, en quantité, c'était le mégot. Et depuis 32 ans. En fait, le mégot, quand on le met dans l'eau, il y a toutes les polluants qui vont se libérer. Et donc, si tu fais l'exercice, par exemple, tu mets un mégot dans un aquarium, en 76 heures, les poissons dans l'aquarium vont mourir. Donc là, tu te rends compte...
On ne teste pas ça à la maison.
Voilà, ne faites pas ça à la maison. Mais si jamais, et en France, c'est le cas, 40 000 mégots finissent par terre chaque minute. Il faut imaginer tous ces aquariums et tous ces poissons qui meurent. Donc si derrière, on inhibe en fait, la biodiversité avec ces mégots qui finissent par terre, bah, en fait, si on résout ce problème, déjà, on aurait des arbres plus verts, des poissons plus vivants. Et c'est pour ça que c'est vraiment un petit geste très simple qui va prendre quelques secondes, que des gens font, et je les remercie, mais que les autres doivent aussi adopter.
Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous ramassez des mégots?
Concrètement, on s'est dit, OK, le mégot, gros problème. Et en fait, c'est quoi la solution? Donc la solution, il y a une solution qui est d'ordre, on va dire, plutôt technique, de créer une filière pour que derrière, ils puissent être récupérés, traités, recyclés sur la partie plastique. Puis il y a l'autre solution aussi de se dire, en fait, déjà, si on ne le jette pas par terre, c'est une question de gestes citoyens, de normes, si tu veux. On voit moins des gens balancer leurs bouteilles plastiques par terre que des gens balancer leurs mégots. Donc déjà, si on arrive à participer, à sensibiliser à travers une aventure un peu folle que le mégot, sa place est à la poubelle, éteint, ça, ce serait très fort. Et pour faire ça, on a du coup designé toute une aventure pour, en gros, mettre le sujet des mégots au JT, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'assez fou pour que le sujet des mégots passe au JT? On a fait deux trucs. On a fait le record du monde de collecte de mégots à Paris et retracer le parcours d'un mégot de Paris jusqu'à la mer à la nage, en relais à 4. C'était 380 km quand même de relais, jour et nuit, entre les 4 nageurs. Et la veille, en fait, dans ce record qu'on a organisé, au début, ça part juste d'une idée, tu vois. On se dit, on va faire le record du monde de collecte de mégots. Ça paraît quand même un peu fou, surtout dans une période de Covid, si tu veux organiser des événements. Et finalement, ce jour-là, ce 29 mai, il y a quand même 1200 personnes dans Paris qui ont pris 3 heures de leur temps un samedi matin pour collecter des mégots, quoi. On est arrivé à 855 000 mégots collectés avec de la musique, une foule, une ambiance hyper sociale. Et du coup, parfois, on a peut-être juste une idée, mais on sous-estime le potentiel de fédération que peut avoir cette idée. Moi, quand je regarde en arrière, tu vois, que je vois ça, ça me rend hyper fier.
On a fait un post sur les réseaux, sur LinkedIn et sur Instagram de Castali. On avait repris une news, il y avait une machine qui permettait de collecter les mégots sur la plage. Et on s'est fait allumer à juste titre en nous disant mais il suffirait que les blaireaux qui jettent par terre leurs mégots le jettent à la poubelle.
Ouais, ce serait pas mal.
Plutôt que de construire des machines à récupérer les mégots. Est-ce qu'il y a un livre ou une série que tu recommandes?
S'il n'y en avait qu'un seul, c'est super dur, mais Stéphanie Baudet, À la verticale de soi. C'est l'histoire d'une championne du monde d'escalade qui décide qu'elle ne se retrouve pas dans ses compétitions et qui part avec son mari, qui est aussi champion du monde, faire un voyage à travers le monde pour découvrir et ouvrir des spots partout dans le monde. Et c'est un bouquin que j'ai adoré.
Qui tu verrais en face de moi pour un prochain rendez-vous?
J'ai la chance dans mon métier de rencontrer plein de gens assez incroyables dans les événements que j'organise, de les faire parler. Et une personne que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Claire Petro. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Change Now?
Change Now, mais en fait maintenant elle a quitté Change Now pour lancer un média qui s'appelle Les Pépites Vertes, qui rassemble en fait des jeunes engagés pour montrer en fait que dans la jeunesse il n'y a pas que des parcours dans des grands groupes, mais il y a en fait plein de gens qui se mobilisent et que c'est à la portée en fait de chaque jeune.
Très bonne idée, Claire.
Donc j'aime bien son dynamisme, tu vois, elle va te mettre des étoiles un peu dans les yeux.
Merci Mathieu pour cet échange. Moi j'ai beaucoup voyagé. Finalement, quand tu te posais la question de savoir si c'était un aventurier, peut-être que toi, tu te poses la question, moi, je la pose pas vraiment. C'était cool de te recevoir. Et puis, je te souhaite un beau parcours et à très bientôt.
Salut. Trop bien. Merci beaucoup. Salut.
Retrouvez les autres épisodes de la série La Relève sur toutes les plateformes de podcast et sur castali.com.